avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio La Pourdie, bonjour. On parle beaucoup dans l'actualité des anti-vax ou des non-vaccinés. On en parle beaucoup, surtout depuis les propos du président de la République dans Le Parisien le 4 janvier dernier, que je rappelle très brièvement. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Je ne commenterai pas particulièrement cette phrase. Beaucoup de commentateurs, de journalistes, de politiques s'en sont chargés. Mais cela me donne l'occasion de revenir sur ce qu'on doit entendre, ce qu'on entend par anti-vax. C'est une expression qui est maintenant courante. Et il me semble que derrière cette expression, il y a un problème sémantique et parfois aussi une peut-être caricature qui ne correspond pas toujours à la réalité. Le problème sémantique, il est bien connu. C'est comme sur l'avortement, quand on parle non pas de militants pro-vie, mais d'anti-IVG. Là, on parle effectivement d'anti-vax. Pour désigner des personnes qui, selon un certain nombre d'études, de sondages ou de reportages, pour leur grande majorité, en réalité ne remettent pas en cause le principe ou le bien fondé de la vaccination en général, en tant que telle, ni même d'ailleurs le caractère obligatoire d'un grand nombre de vaccins contre le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, etc. Je précise même d'ailleurs qu'un grand nombre de ceux qu'on qualifie d'antivax, pour les discréditer, sont en réalité eux-mêmes vaccinés contre le ou la Covid-19. Beaucoup de ceux qui manifestent tous les samedis depuis plusieurs mois contre le pass sanitaire qui est devenu maintenant le pass vaccinal, en réalité ne contestent absolument pas que la vaccination permet de limiter le risque de formes graves de Covid et ne remettent aucunement en cause la nécessité de la vaccination de personnes vulnérables de plus de 65 ans ou qui présentent un certain nombre de comorbidités, comme on dit. Ce que la plupart d'entre eux contestent, en revanche, c'est la politique qui consiste à contraindre la quasi-totalité de la population à se faire vacciner avec un vaccin qui est encore, qu'on le veuille ou non, en phase 3, comme on dit, c'est-à-dire en phase expérimentale, dont l'efficacité est relative et dont on ne connaît pas vraiment, faute de recul dans le temps, les effets à moyen ou long terme. Ce qu'ils contestent, c'est donc une stratégie qui impose aux Français, comme Olivier Véran l'a reconnu d'ailleurs, une sorte d'obligation vaccinale déguisée, mais au détriment d'un certain nombre de libertés tout à fait fondamentales, puisque le non-vacciné se voit privé de la liberté de se déplacer, de se rendre au cinéma, d'aller au restaurant, de monter dans un TGV ou dans un avion, et le contraint à renoncer à un certain nombre d'engagements associatifs, de participer à des activités sportives, culturelles, etc., ainsi qu'à la quasi-totalité de ses loisirs, restaurant, théâtre, cinéma ou autre. Il y a là, qu'on le veuille ou non, une forme d'apartheid qui est étonnante dans une société qui se veut à ce point inclusive comme la nôtre. Ce qui me surprend davantage encore, c'est la stigmatisation des non-vaccinés et la violence verbale avec laquelle ils sont traités comme des parias, voire comme des hérétiques, que ce soit par un certain nombre de politiques ou dans les médias. Sans revenir sur les propos d'Emmanuel Macron le 4 janvier dernier, je citerai quelques exemples. Olivier Véran le 30 décembre, qui parlant des non-vaccinés, dit « c'est un magma de gens », on voit le mépris avec lequel il parle, « c'est un magma de gens qui se sont enquistés dans une forme de contestation pouvant prendre parfois des allures pas loin d'une forme de délire ». Pas loin d'une forme de délire, c'est inquiétant. Certains d'entre eux devront-ils bientôt être internés dans un asile psychiatrique comme à l'époque des dissidents en Union soviétique? On finit par se poser la question. Autre surprise, entendre une certaine Anastasia Colissimo en direct sur LCI le 30 décembre dernier, également déclarer à propos des non-vaccinés, ce serait un bon moyen de sélection naturelle de voir mourir les non-vaccinés. Alors je ne sais pas si on mesure la gravité de ce genre de propos et la haine qu'ils peuvent véhiculer. De même, un tweet d'un philosophe, essayiste, animateur de radio et de télévision bien connu, Raphaël Enthoven, du 31 décembre 2021, « Bonne année à tous, sauf aux antivax, qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres. » Et on voit bien quand même la portée haineuse de ce type de considération, de déclaration. Certains envisagent par ailleurs, à l'encontre des non-vaccinés, des mesures qui pourraient aller au-delà ou qui iraient au-delà du régime discriminatoire que le pass vaccinal leur impose. Certains commentateurs ont évoqué la possibilité que les non-vaccinés puissent assumer leur choix en payant eux-mêmes leurs frais d'hospitalisation. Mais ce type de raisonnement, à mon avis, est difficilement défendable car en toute logique, il faudrait alors exiger, par exemple, des fumeurs qu'ils paient de leur propre poche le traitement et les frais d'hospitalisation en cas de cancer du poumon. Une tribune du professeur André Grimaldi dans le journal du dimanche du 1er ou du 2 janvier dernier évoquait aussi la possibilité que les non-vaccinés puissent ne pas être réanimés. Christian Estrosi, maire de Nice, sur BFM TV, c'était le 13 janvier dernier, il n'y a pas très longtemps, considérait que les non-vaccinés devraient être ou pourraient être privés de l'assurance chômage, comme si ceux-ci n'avaient pas cotisé tout au long de leur vie au même titre que les personnes vaccinées. Il proposait même qu'ils soient éventuellement confinés, pourquoi pas parqués dans des camps pendant qu'on y est. Et je suis aussi surpris par une tribune parue dans la presse le 9 ou le 10 janvier dernier, d'un médecin et d'un avocat, un avocat qui s'appelle Benjamin Fédous, présenté comme avocat au barreau de Paris, mais en fait ancien candidat de La République En Marche pour les sénatoriales de 2017 à Paris, qui proposait que les non-vaccinés puissent faire l'objet de poursuites pénales. Ce qui est absolument aberrant, car comme le dit maître Pierre Gentillet, qui est un avocat, pour infliger une sanction, encore faut-il qu'il y ait eu faute. Quelle est la faute des non-vaccinés, étant donné qu'en France, la vaccination n'est pas obligatoire? Mais les non-vaccinés, me direz-vous, ne sont-ils pas, malgré tout, responsables ou largement responsables de la saturation des services de réanimation? Alors, outre le fait que cette question est de moins en moins d'actualité avec le variant Omicron qui, semble-t-il, est très contagieux, mais nettement moins pathogène, comme on dit, que le variant Delta ou que les formes précédentes de la maladie Covid-19, que faut-il penser de ce que déclare Olivier Véran? 90% de non-vaccinés en réanimation, dit-il. Est-ce que ce chiffre est exact? Ce chiffre, il a l'air d'être inspiré par une déclaration d'un médecin, le docteur Véli, de l'hôpital de la Timone à Marseille, qui avait déclaré que dans son service, 85% des patients hospitalisés étaient des non-vaccinés. Mais outre le fait que ce chiffre est difficilement vérifiable, je crois qu'il faut s'abstenir de toute généralisation parce que on peut se référer à des statistiques nationales beaucoup plus fiables que celles de l'hôpital de la Timone à Marseille, notamment les chiffres de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques qui dépend du ministère de la Santé et qui faisait état de 52% de non-vaccinés en soins critiques à la fin du mois de décembre 2021. 52%, c'est considérable, d'autant que proportionnellement, on le sait, les non-vaccinés ne représentent à peu près maintenant que 10% de la population. On voit donc bien une surreprésentation des non-vaccinés dans les services de soins critiques ou de réanimation. Mais enfin, il faut d'abord signaler que ces chiffres mêmes sont contestés par d'autres sources qui considèrent que le pourcentage de non-vaccinés en soins critiques ou en réanimation représente en fait plutôt 40% à peu près des patients admis dans ces services. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait en effet que certains organismes ou que certains établissements assimilent les patients qui n'ont pas un parcours vaccinal complet, ou si vous préférez, qui n'ont pas reçu les 3 doses du vaccin, à des non-vaccinés, en les comptabilisant comme tels. Et s'ajoute un problème méthodologique de statistique, et les personnes qui sont hospitalisées pour autre chose que le Covid ne sont testées que si elles ne sont pas vaccinées, ce qui a nécessairement pour effet d'augmenter de façon artificielle le pourcentage de non-vaccinés parmi les patients admis en soins critiques ou en réanimation. Bon, quoi qu'il en soit, je ne dis pas que proportionnellement, les non-vaccinés sont nettement plus nombreux en soins critiques ou en réanimation que les personnes vaccinées. Mais, contrairement à ce qui est martelé à longueur de temps, par le gouvernement comme par les autorités sanitaires qui en dépendent, comme dans la presse ou les principaux médias, le critère principal de l'hospitalisation et surtout de l'admission en soins critiques ou en réanimation n'est pas le fait d'être ou non vacciné, c'est le fait d'être une personne vulnérable, puisque 95% environ des personnes admises en réanimation ou des personnes qui décèdent des suites du Covid sont soit des personnes relativement âgées dont la moyenne d'âge est peut-être de 70 ou 75 ans, soit des personnes atteintes de comorbidités comme le diabète, des maladies respiratoires ou des maladies cardiovasculaires, ou les deux, c'est-à-dire des personnes âgées qui par ailleurs ont des comorbidités. Dans ces conditions, on peut légitimement se poser la question de savoir si les scientifiques qui considèrent qu'il vaut mieux ou qu'il valait mieux cibler les populations à risque plutôt qu'entreprendre une gigantesque campagne de vaccination de masse n'avaient pas ou n'ont pas raison. Si c'est le cas, comment expliquer les déclarations du président de la République et du gouvernement concernant les non-vaccinés? Les non-vaccinés ne sont pas une menace pour la société, je considère qu'ils sont plutôt une menace pour l'autorité, pour ne pas dire l'amour-propre du président de la République, mais aussi pour la crédibilité de son gouvernement et de la politique, la stratégie vaccinale, sanitaire qui a été menée. Alors il ne m'arrive pas très souvent de citer Média Basque dans le cadre de cette chronique de l'Observatoire sociopolitique, mais je suis en accord complet avec un éditorial du 13 janvier dans lequel Goytzeder Taberna, je crois qu'elle est rédactrice en chef de Média Basque, écrit « Au plus haut de l'État, on insulte les non-vaccinés, on les montre du doigt, on les accuse de tous les maux, surtout ceux de l'hôpital. Le gouvernement d'Emmanuel Macron aurait voulu se mettre à dos les personnes réfractaires qui n'auraient pas pu mieux s'y prendre. Mais voulait-il vraiment les convaincre du bien fondé de la stratégie vaccinale? Pas sûr. Il a dû faire un calcul politique. En attendant, le débat sur la stratégie globale face à cette crise sanitaire, sur la pertinence des différents outils disponibles, le vaccin et les autres, et leur complémentarité est évacué. Les non-vaccinés empêcheraient le recul de la pandémie, écrit-elle, et par leur faute, les hôpitaux seraient saturés à bout de souffle. De la part d'un gouvernement qui ferme les lits d'une vague à l'autre et n'est pas en mesure d'offrir des conditions de travail dignes aux soignants, c'est osé. Aujourd'hui, il y a moins de lits, moins de personnel qu'à la veille de la pandémie dans l'Hexagone. Et je n'ai pas non plus l'habitude de citer des députés de la France insoumise dans le cadre de cette chronique, mais je suis là aussi en accord complet avec François Ruffin, par exemple, lors des débats sur la loi du pass vaccinal à l'Assemblée nationale au début du mois de janvier, qui disait « En 2017, vous avez fermé, les gouvernements successifs ont fermé 4900 lits, en 2018, 4200 lits, en 2019, 3100 lits, en 2020, c'est-à-dire en pleine pandémie, 5700 lits ont été fermés. » Ce qui paraît tout de même extrêmement grave. Et j'ajoute que 15 000 soignants font cruellement défaut actuellement dans les services hospitaliers ou de réanimation. 15 000 soignants qui ont été suspendus, rappelons-le, ces derniers mois, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. En d'autres termes, il est bien commode pour le gouvernement, qui ne semble pas forcément très satisfait de la politique qu'il a menée, de faire des non-vaccinés des boucs émissaires en les présentant comme coupables de la saturation de certains services de réanimation, dont il est en réalité lui-même le principal responsable.